Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Neveux de René, une émission dédiée à la découverte des textes de la philosophie. Nous sommes avec Sylvain Contasso-Vivier. Nous avons une invitée aujourd'hui, Evelyne Rochotte-Daou, et moi-même, Nazim Fattès. Alors nous partons pour un long voyage, en fait, peut-être loin des terres originelles de la philosophie, loin de la Grèce. Nous allons prendre le bateau et puis faire cap sud. Alors on va donner la parole sans plus de précision sur l'endroit où on va se retrouver à Sylvain qui va nous lire un extrait de cet auteur dont on va discuter lors de cette émission.
Prosper, au moment où il allait se faire une opinion générale sur les hommes qu'il approchait, connut la pire des déceptions. Un moment, il ne sut pas combattre cette déception-là. Il n'avait pas pu d'abord expliquer pourquoi il était pour lui-même une plus profonde déception. Encore une de ses chances manquées était la rencontre trop brève, ou plutôt la séparation d'avec Nkondi. Oui, le vieux Nkondi, l'oncle même de sa femme. Pour bien vivre, il faut d'abord prendre une décision. Et pour l'écouter, il avait pris celle d'épouser la fille de Chizig, la nièce de Nkondi. Mais Juliette tomba en extase devant son mari au point de ne pas ouvrir la bouche devant lui. La déception était là aussi. Si seulement Juliette lui avait dit « Ne serait-ce que murmurer, tu es un homme », sans même ajouter de superlatif, Prosper aurait été dans la vie une main et non une peau de tam-tam. Une main prime. Sa main ne primait pas. Prosper partout se taisait ou répondait par monosyllabes. Qui ne souffrirait pas de veulerie à force d'être inutile à la vie des uns et des autres? On vivait d'instinct pouilleux, mutilé, muselé, brimé, sans importance si ce n'est que dans la dérision. Nkondi avait peut-être fini par lui apprendre comment devenir une main qui prend, qui donne, qui se ferme, qui cogne, qui s'offre, qui décide. Un homme qui ne décide pas est malade.
Merci Sylvain. Alors voilà, on était donc en Afrique, hein, comme on peut le deviner d'après les noms, d'après le tam-tam. Alors Evelyne, est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'auteur et nous le présenter en quelques mots?
Oui, ben, je vais déjà parler un petit peu de Prosper, le personnage principal,
oui.
Là, qui se sent mal. Et effectivement, c'est le héros de deux romans de l'auteur Gérald Félix Tchikaya Outamsi.
Tchikaya Outamsi, c'est pas facile à prononcer.
Alors, Outamsi, c'est le surnom qu'il s'est donné parce que des Félix Tchikaya, il y en avait déjà beaucoup en Afrique, au Congo Brazzaville pour être précise.
D'accord.
Et il s'est donné ce surnom Outamsi qui veut dire la petite feuille qui écrit pour son pays.
D'accord.
Oui.
En si peu de syllabes, on peut dire autant de choses.
Je le crois sur parole.
Oui. Ou peut-être que pour son pays est sous-entendu, ou on ne sait pas.
Tchikaya l'entendait comme ça.
Ouais.
Oui. Parce que lorsqu'il a commencé à écrire ses romans, il voulait, nous dit-il, magnifier le Congo. Et il trouvait que l'Afrique avait manqué d'historiens. Elle avait de grands poètes, mais pas d'historiens. Et il a commencé... Au début, c'était une trilogie pour retracer sous forme romanesque l'histoire du Congo à partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux indépendances. C'est un peu plus tard que, voyant ce qu'était devenu son pays après l'indépendance, qu'il a rajouté un quatrième roman.
D'accord. Alors, les trois romans, vous pouvez nous les resituer, enfin, rapidement. Là, c'est le deuxième, hein, c'est ça?
Non, il s'agit des Cancrelats.
Oui, ce dont on a lu.
Les Cancrelats, L'histoire débute à la fin du 19e, en 1890, et se termine dans les années 40. Ensuite, il y a les méduses ou les orties de mer qui se déroulent juste en juin 1944 lors d'une grève des cheminots du Congo océan et de la répression qui a suivi, la répression violente. Ensuite, on retrouve Prosper, le héros ou anti-héros des Cancrela, qui devient alors à ce moment-là le vrai héros des Phalènes.
D'accord. Alors Sylvain, par rapport au texte que tu as lu, est-ce qu'il y a des choses qui t'intriguent, qui ressortent comme ça à brûle pour point. Je sais que... qu'est-ce que tu comprends par cette idée d'être une main, ne pas être une peau de tam-tam ? Est-ce que c'est... Bon, on peut dire au début, c'est un Africain qui souhaite être actif dans sa vie, ne pas être passif. Est-ce que c'est comme ça que tu l'entends ?
Alors oui, effectivement, on peut le voir. On ressent ça quand on lit le texte. Et aussi, ce qui pourrait ressortir là, c'est l'idée de transparence. On a l'impression que Prosper, il se sent transparent aux autres, en fait. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est sans doute insupportable, qui est quelque chose de compliqué, quoi.
D'accord.
Oui, il y a autre chose aussi.
Oui.
C'est qu'on voit effectivement qu'il a épousé sa Juliette sur les conseils de quelqu'un, de quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui et d'un homme plus âgé, qui était vraiment une main et non pas une peau de tam-tam qui se laisse battre. Et c'est tout le problème de Prosper. Prosper qui a été orphelin très tôt, qui a bénéficié effectivement de la bienveillance de sa sœur Sophie, mais qui a perdu son père trop tôt et qui a manqué de guide. Donc il doit se retrouver toujours, il se trouve tout seul. Et dans cet extrait, effectivement, il se sent très mal. Même avec Juliette, qui va se révéler une très bonne épouse, il regrette effectivement qu'elle ne le pousse pas davantage. Et il manque d'un tuteur. Et c'est quelque chose, c'est un thème qui revient souvent dans les romans de Chikaya, le thème des orphelins. Comme Chikaya se sentait lui-même orphelin de mère, alors qu'il admirait son père, et peut-être aussi c'est le symbolisme de l'Afrique orpheline qui manque de grands leaders.
Et donc, oui, tu voulais dire...
Oui, non, c'est vrai que... Il y a la phrase à la fin du passage et pose question quand même à un homme qui ne décide pas est malade. C'est assez fort comme affirmation, ça.
Ouais, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose comme se donner une volonté, quoi?
Oui.
Ça c'est intéressant, on pourra y revenir. Et donc, Evelyne, est-ce que vous pouvez dire en deux mots comment vous avez rencontré Chikaya? C'est par le biais de l'association Diwan en Lorraine qui vous avait demandé de faire quelque chose lors de Donkey, c'est ça?
Pour la fête
de l'Afrique
arabo-africaine.
Oui.
De Donkey.
Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest qui se rencontrent à la MJC Lillebonne à Nancy.
On avait décidé de célébrer des poètes africains. Notre président avait choisi Chikaya Outomsi. Donc, un groupe de musiciens et de comédiens devait mettre en voix des poèmes de Chikaya Outomsi et m'avait donné le soin de présenter la grande tétralogie de Chikaya, c'est-à-dire quatre grands romans et de 1200 pages.
Et donc, qu'est-ce que vous avez ressenti, je vais le dire un petit peu de façon violente, en tant qu'Européenne, justement, est-ce que ce monde africain... Il est facile d'accès? Est-ce qu'il est difficile d'accès? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est perdu? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se confronte à cette œuvre qui est assez monumentale? enfin, je sais pas combien de pages ça fait. 1200. Bon, c'est pas immense, c'est pas petit non plus. Comment on y entre dans cet univers?
Je dois avouer que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Si j'avais pas eu ce contrat, j'aurais abandonné la lecture au bout d'une cinquantaine de pages. Mmh. Et au début, j'ai pensé que c'était mon éducation européenne, mon habitude des romans français qui m'empêchait d'entrer dans ce roman. En fait, c'est pas uniquement le fait que ce soit la littérature africaine, parce que Chikaya utilise effectivement un langage, il mélange le langage parlé. Souvent, il ne met pas de parenthèse, il ne va pas à la ligne quand il change de personnage. C'est très difficile, mais ça vient pas uniquement de ses racines africaines, c'est qu'il il a vécu longtemps à Paris, dans les années 50 et 60, et il a rencontré effectivement tout le nouveau roman, mais surtout il a été influencé d'abord par le surréalisme. D'accord. Il a été aussi imprégné de toute cette littérature.
Toi, tu t'es intéressé au Imba, hein, tu as fait oui. Sylvain, tu nous as fait trois émissions d'interview avec Solène Bardet. Quel est ton sentiment par rapport à cette question de l'Afrique quand tu discutes avec Solène Bardet? Est-ce que, en tant qu'Européen, le monde africain te paraît lointain, difficile d'accès, incompréhensible? Comment tu ressens les choses par rapport à ce monde-là?
Alors, c'est vrai que c'est difficile de répondre dans le sens où je considère que je ne connais pas bien l'Afrique du tout. Moi, j'en ai qu'une vision très lointaine. Et justement, j'aimerais bien aller découvrir plus avant le continent et les gens qui y vivent. Après, oui, il y a une distance énorme. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre justement avec l'interview avec Solène Bardet, qu'il y a une distance énorme. Mais en même temps, on se rejoint aussi sur plein de choses, hein, forcément. Il y a aussi des points communs dans le quotidien. Enfin, il y a des éléments, je pense, de vie qui se rejoignent. Mais après, c'est peut-être le sens qu'on donne à, enfin, la façon de vivre qui est vraiment, pour le coup, je pense, diamétralement opposée, quoi.
Dans la façon de vivre, tu penses à quoi? Est-ce que la simplicité ou... Moi, il y a quelque chose qui me surprend, et puis je pense que c'est assez présent dans l'œuvre de Chikaya Utamsi, c'est la présence du surnaturel. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut différencier une vie européenne d'une vie africaine, ou du moins telle qu'elle apparaît? Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas le surnaturel en Europe, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, ça structure vraiment la société du plus haut, du politique jusqu'au plus bas. C'est-à-dire, dans le quatrième livre qui suit la trilogie qui s'appelle « Ces fruits si doux de l'arbre à pain », on voit bien que le président de la République lui-même est pris dans des choses qui ne sont pas très claires.
Il utilise la sorcellerie.
Voilà, oui. Il utilise la sorcellerie.
Comme moyen de pression et de terreur. Mmh. Oui, mmh. Oui.
Est-ce que c'est une clé, cette présence du surnaturel, pour comprendre la différence?
Ou
elle n'est pas bonne? Ou peut-être elle n'est pas bonne, je ne sais pas, hein, je demande.
C'est difficile.
C'est difficile. Hein.
La transcendance, je pense, ou le surnaturel, je pense qu'il existe aussi en Occident. Alors c'est vrai qu'il y a une distanciation avec les religions en Occident plus forte.
D'accord.
Chemin de pensée sur RCF.
Nous sommes avec Evelyne Rochette-Daou sur Les Neveux de René, Chemin de pensée. Nous discutons de Chikaya Utamsi, poète et auteur romancier congolais qui a vécu en France et qui est l'auteur d'une œuvre monumentale que nous essayons d'aborder dans un premier temps, avant peut-être dans d'autres émissions de rentrer plus dans les détails. Donc on se demandait sur est-ce que ça permet aussi de comprendre mieux la différence entre le mode de pensée africain et le mode de pensée européen. Je ne voudrais pas employer utiliser l'expression de philosophie africaine, hein, parce que, comme vous le savez, je suis assez strict avec l'utilisation du mot philosophie, que je préfère réserver à justement un mode de pensée occidental, pour dire qu'il y a d'autres modes de pensée qui sont différents et qu'il ne faut pas tout mettre sous l'étiquette de philosophie. Voilà. Alors, on peut aller plus en avant. Evelyne Rochaud-Daou, est-ce que vous pouvez nous dire comment, justement, du fait de la colonisation, comment va s'articuler, on va dire, les modes religieux authentiquement africains avec le christianisme qui, bien sûr, est importé d'Europe. Comment ça se passe et comment Chikaya décrit ça dans son œuvre ?
C'est très complexe parce que Chikaya lui-même est né dans une famille animiste. Son père ensuite a quitté sa mère pour épouser une évoluée.
Alors c'est quoi une évoluée ?
Oui, je vais expliquer. C'était le terme employé par les colons français pour désigner les Noirs qui s'étaient un petit peu occidentalisés, et notamment par l'intermédiaire de l'école, parce qu'ils avaient suivi l'école des missions. Les missions essentiellement catholiques, quelques-unes protestantes. Donc ils savaient lire, écrire, ils bénéficiaient de postes subalternes quand même dans l'administration. Mais ils étaient quand même mieux vus par les colons.
Et comment ils sont vus par les gens de leur propre peuple ?
Souvent, pendant longtemps, les gens de leur propre peuple leur sont soumis aussi.
Ah oui, d'accord.
Oui, enfin, c'est ce que dénonce Chikaya. Moi, je le connais, ce monde-là, par l'intermédiaire du roman.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une jalousie, un antagonisme vers ces gens-là ? Est-ce que c'est...
Non. Et c'est ce que Chikaya reproche indirectement, par l'intermédiaire de ses personnages, à une grande partie des Africains, d'être toujours soumis à celui qui a le pouvoir, et on fait le dos rond, et puis on continue à rire et à blaguer.
Parce que si je prends le cas de l'Algérie, que je connais, ceux qui se sont les plus occidentalisés, il y a une rhétorique qui les dénonce, qui leur dit qu'ils sont trop pro-français, trop pro-occidentaux. Je suis surpris que ça n'arrive pas dans les autres pays.
Mais pas à l'époque. Aux époques décrites par Chikaya.
D'accord.
Dans ses romans. Oui. Oui.
Alors, par rapport à la religion chrétienne, oui, comment ça s'articule, religion animiste, religion chrétienne?
Je reprends l'histoire de Chikaya, qui est né effectivement dans une famille animiste. Ensuite, son père s'est marié à l'église, et donc le mariage était à ce compte-là reconnu par les Français avec une évoluée, et lui, tous ces évolués, le père, la mère et les nombreux enfants allaient à l'église à la messe tous les dimanches, mais pas le jeune Gérald. Et à 13 ans, il a demandé à être baptisé, et il aimait beaucoup la musique grégorienne, il aimait bien les fastes catholiques, mais il a toujours considéré tous ces fastes, ce décorum de l'Église catholique avec ironie et condescendance. Mais une figure qui l'a marqué, c'est vraiment la figure du Christ. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de figures christiques dans ses romans.
D'accord. Vous pouvez peut-être nous lire un extrait de cette...
Un extrait qui est assez humoristique. C'est la sœur aînée de Prosper. Elle a 2 ans de plus que lui. Elle s'est toujours sacrifiée pour lui. Notamment parce qu'ils sont orphelins, et à un moment, elle a même accepté d'être une dindi, c'est-à-dire la maîtresse d'un maître blanc. Non pas par vénalité, mais pour que son frère vive dans des conditions meilleures, n'attrape plus la gale et soit habillé correctement. Elle travaille énormément aussi à la disparition de son amant blanc qui lui a laissé une partie de ses biens. Elle achète une petite boutique et elle travaille énormément, et tout ça pour son frère. Et peu à peu, elle, elle a été aussi élevée à la mission. Elle a appris à lire elle a tous les rudiments de la religion catholique et ce qu'elle va garder, elle va oublier peu à peu l'écriture, mais elle va garder ce qu'elle considère elle comme important, c'est-à-dire la religion. Et elle parle non pas au Christ, mais à la Vierge, et de façon très singulière. Une chose est sûre, Sophie a pour son frère la faiblesse de cœur d'une mère. Elle prend ses péchés à lui sur elle. Mais c'est de l'orgueil, ça, Sophie. Seul l'agneau de Dieu peut effacer les péchés du monde. Tu n'as pas à faire acte de contrition à sa place. Prie pour ton frère afin qu'il rentre dans le bon chemin si tu penses qu'il s'égare. Ou alors, ne le quitte pas des yeux. Mais c'est ce que je ne cesse de faire. C'est bien, répond la Vierge. C'est moi qui le dis, parce que ce n'est pas précisé dans le livre. Mmh. Elle rompt le silence, pendant lequel la bonne Vierge l'observe avec tant de bienveillance en se disant « La bonne âme !» Elle rompt le silence. « Mais je ne suis pas sûre de ce que je crois. » « Eh bien, prends soin de ton âme. » « Quoi ? La Vierge lui apprend à être égoïste, à ne penser qu'à elle ? Mais dis-moi, ma bonne mère, comment faire pénitence ?» La Sainte Vierge lui demande si elle sait où se trouve l'Inzolo. Et lui dit « Va à l'Inzolo faire pénitence, va à pied, va à genoux, va, j'irai. Nous serons plus tranquilles. Je promets que tu guériras. Et que tu te guériras et que tu guériras toute âme malade qui aura pitié de toi. » Sophie se demande si c'est loin ce Golgotha, et elle va faire ce pèlerinage à l'Inzolo, c'est une vingtaine de kilomètres de Brazzaville, à pied et parfois à genoux. C'est une religion un petit peu, on dirait, du charbonnier. Mais
c'est la foi du charbonnier, comme on dit.
Elle a tellement la foi qu'elle va revenir en état de grâce et va, sur le chemin du retour, elle va guérir un enfant sans même s'en apercevoir. Elle se réveille quand on lui rend grâce, quand on la remercie. Et en fait, tous ces bruits l'énervent et elle disparaît dans la foule.
D'accord. Et alors, quel est finalement, c'est un rapport qui n'est pas de dénonciation. Chikaya ne dénonce pas, donc ces êtres
D'autre part, Sophie nous paraît un peu naïve, mais si on lit bien, enfin, moi j'adore ce personnage, elle a gardé sa foi animiste et elle a besoin, elle rêve énormément. C'est toujours la présence du surnaturel. Et elle croit à la signification des rêves. Et parfois, elle ne parvient pas à élucider elle-même ses propres rêves. Donc, son amie lui dit, va voir le sorcier. Et là, elle n'a pas confiance dans le sorcier, cette fois-là. Et donc, elle va à la messe. Et elle va suivre toutes les messes du jour. Mais l'abbé de l'église, là, qui est noir, lui dit « Mais Sophie, tu dois te confesser. » Mais là, Sophie décide de ne pas se confesser. Et peut-être qu'elle a un peu peur du manque de discrétion du prêtre. Et elle ne supporte pas non plus les ordres, cette église catholique si sûre d'elle-même, si parfois péremptoire. Qu'elle préfère avoir un contact direct avec la divinité. Oui. Et elle reprochera aussi à un prêtre son prêche qui critique l'engagement politique de Prosper, qui agit pour les pauvres. Et elle se dit, mais en quoi peut-il faire du mal puisqu'il veut la justice pour les pauvres ? Qu'est-ce que ce prêtre vient critiquer mon frère pour cela ? Voilà.
Bon, merci beaucoup. Ça nous a fait voyager, découvrir des choses merveilleuses. Une petite réaction, Sylvain ou...
Voilà, comme ça, à chaud, c'est difficile. Mais c'est très intéressant. On voit qu'il y a tout un... Enfin, tout un... une complexité en fait sur le choc de plusieurs, enfin de deux cultures là principalement. Et c'est vraiment intéressant. Oui, il y a plein de choses à voir.
Il y a plein de choses à découvrir. Ouais, à découvrir. Et justement, on va continuer lors d'une prochaine émission. On réinvitera Evelyne si elle nous fait le plaisir de revenir parmi nous pour discuter de la question des indépendances et de savoir quel est le message donné par Chikaya Utamsi aujourd'hui ? Quelle peut être la place de l'Afrique ? Alors, on sait qu'il n'y a pas de réponse simple au niveau de l'appropriation. Tout le monde fond sur l'Afrique pour s'approprier les richesses de l'Afrique. Quelle place peut avoir l'Afrique ? Mais je trouve que c'est intéressant de revenir vraiment sur le terrain grâce à un auteur comme Chikaya Utamsi et voir peut-être se replonger dans cette ambiance avant l'indépendance et savoir quel a été vraiment l'esprit africain et comment il peut s'articuler avec l'esprit occidental.
Il faudrait juste ajouter qu'il est mort prématurément en 1988.
Et en Europe, parce qu'il a vécu en France.
Il a vécu la majorité de sa vie en France.
Merci beaucoup. On continuera à cheminer. Puis on invite nos auditeurs à essayer de se procurer peut-être un livre de Chikaya Utamsi. La trilogie est disponible chez Gallimard NRF. Il y a les trois romans, Les Cancrelats, Les Méduses, Les Phalènes. Et puis le quatrième roman, Ces fruits si doux de l'arbre à pain. Merci, à dans deux semaines lors de la prochaine émission.